Et c'est donc au Portugal que les chercheurs ont exhumé des outils, un crâne d'hominidé fossilisé datant de 400 000 ans. Il s'agit du plus vieux crâne découvert dans la péninsule ibérique et il se pourrait qu'il ait appartenu à un ancêtre de l'homme de Néandertal. Les résultats de cette découverte ont été publiés dans la revue américaine PNAS. Et pour en parler, nous sommes avec vous, Jean-Jacques Hublin. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes directeur du département évolution humaine de l'Institut Max Planck à Leipzig en Allemagne. On pourrait faire une chronique régulière, Jean-Jacques Hublin, parce qu'on vous a quasiment toutes les semaines au téléphone en ce moment.
C'est-à-dire que l'actualité des découvertes est riche en ce moment, c'est vrai.
Effectivement. Alors quelles sont les caractéristiques de ce crâne découvert là au Portugal, s'il vous plaît ?
Alors, d'abord, il est quand même assez, fragmentaire. Malheureusement, les caractères néandertaliens qui étaient présentés dans l'annonce, le gros nez, le menton fuyant, etc., manquent. C'est une boîte crânienne, essentiellement. Et c'est un fossile qui est très intéressant et très important parce que il appartient à cette période pendant laquelle on pense que l'homme de Néandertal a émergé en Europe.
Donc 400 000 ans, c'est ça,
À peu près, disons, je vais compter beaucoup plus large, c'est un phénomène qui se déroule entre, disons, 600 000 et 300 000.
Donc ce crâne, on ne peut pas le dater de façon précise.
Alors ce crâne-là, précisément, il est daté de façon assez exacte, parce que il a été découvert dans une grotte où il y a une stratigraphie assez claire. Et il a été possible d'utiliser une méthode qui s'appelle la méthode de désintégration de l'uranium pour dater des stalagmites qui sont en dessous et déposés au-dessus du niveau qu'il contient.
Et donc, on est sûr qu'il date d'à peu près 400 000 ans.
Oui, plus ou moins 15 ou 20 000 ans, mais c'est assez précis. Ce qui n'est pas le cas pour beaucoup des sites qui datent de cette période-là.
Oui. Alors, cette période, justement, c'est une période importante dans l'histoire de l'évolution humaine, Jean-Jacques Hublin ?
Oui, c'est une période qui est très intéressante parce que... On a longtemps cru que l'homme de Néandertal, c'était une histoire récente, à peine 100, 150 000 ans, quelque chose comme ça. Et maintenant, on voit que ça remonte beaucoup plus loin dans le temps. La paléogénétique nous indique un point de divergence entre la lignée néandertalienne et la lignée qui mène à l'homme moderne. C'est un point qui est très loin dans le temps, vers 600 000. Mais les caractères anatomiques qui font l'homme de Néandertal n'apparaissent que beaucoup plus tard. Et on relie ça à des phénomènes qui sont des phénomènes climatiques, environnementaux, qui se déroulent pendant cette période. C'est une amplification du balancement entre des périodes glaciaires et interglaciaires, balancement qui devient extrême. Et on pense que ces crises climatiques ont un effet en particulier sur la taille des populations humaines et c'est probablement un des mécanismes qui a entraîné cette divergence entre la lignée néandertalienne et la lignée qui mène à l'homme actuel.
Et que nous dit ce crâne justement sur son éventuelle inscription dans une lignée néandertalienne ? Est-ce qu'il a justement des ressemblances dans sa morphologie avec des ancêtres de Néandertal ?
Alors, il est quand même encore assez primitif et assez éloigné de ce qu'on va trouver chez l'homme de Néandertal, mais il ressemble un peu à des fossiles qui viennent non pas du Portugal, mais d'Espagne, la région de Burgos, un site qui s'appelle Cima de los Huesos, et où là, on a des crânes qui sont très néandertaliens, j'allais dire trop néandertaliens même pour leur âge.
Ah bon ? Qui pourraient correspondre à la même période, justement ?
Alors, ils sont officiellement datés de 430 000, mais avant ça, il y a eu d'autres estimations à 300 000, à 600 000. C'est un gisement qui est assez difficile à dater. Et donc, soit on a affaire à une grande diversité de formes à cette époque-là, soit tout simplement un certain nombre de ces sites ne sont pas suffisamment précisément datés et on joue un petit peu sur cette incertitude. On peut les organiser dans le temps avec une accrétion progressive de caractères néandertaliens qui deviennent de plus en plus fréquents, de plus en plus marqués.
Mais alors Jean-Jacques Hublin, ce crâne, il est néandertalien ou il n'est pas néandertalien?
En fait, l'évolution, c'est un phénomène progressif, hein, graduel. Il y a des moments d'accélération. Et là, on est dans le début de cette accélération qui mène vers la morphologie néandertalienne. Alors, il y a quelques caractères, effectivement, qui rappellent les hommes de Cima de los Huesos, qui rappellent les néandertaliens
en Espagne,
qui vont venir plus tard. Mais on est probablement vraiment au tout début de ce phénomène. Et en grande partie, on a encore quelque chose de primitif.
Mais ça pourrait être une autre espèce ou pas, alors, du coup ?
Alors, moi, je pense qu'on va le ranger tôt ou tard dans les néandertaliens primitifs, ce qu'on a fait avec Cima de los Huesos. Hein, on a essayé de considérer ça comme une autre espèce. Finalement, on a quand même un continuum de formes à travers le temps. Alors, lorsqu'on avait très peu de fossiles, très peu de sites, eh bien, il y avait des grands blancs dans la documentation. C'était assez facile de mettre des limites, hein, entre tous ces groupes. Et maintenant, on a de plus en plus de fossiles. On a ce fossile portugais. Il y a un fossile qui a été découvert en Serbie aussi il y a quelques années, qui appartient à cette même époque. Il y a des fossiles de la cône de l'Arago, hein, dans le sud de la France, qui date aussi de cette époque. Il y a un fossile qui est un fossile anglais qui vient d'un gisement qui s'appelle Swanscombe. Enfin bref, on a une série de formes qui nous montrent, disons autour de 400 000, comment la lignée néandertalienne a démarré.
Donc une grande diversité de caractères. Et par ailleurs, on a retrouvé aussi des outils, des restes d'animaux. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'histoire de cette hominidée ?
Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette découverte, c'est que c'est un crâne qui a été trouvé dans un gisement archéologique où on a des outillages lithiques. Et en particulier, on a une association entre ce fossile et un type d'outillage qu'on appelle l'acheuléen et qui comporte des objets bifaciaux. Espèce de, autrefois on appelait ça un coup de poing, une hache préhistorique, hein, c'est une espèce de grosse amande en silex tranchante. Il y a beaucoup de sites acheuléens en Europe, mais il n'y a pas beaucoup. On a des restes humains associés. Et l'acheuléen, c'est une industrie qui est très intéressante parce qu'on la connaît depuis très très longtemps en Afrique, 1,8 million. Mais de façon seulement assez tardive en Europe, à partir de 600 000. Alors une des hypothèses, c'est que ces hommes de l'acheléen, dont cet homme d'Aroeira, hein, eh bien, peut-être représentent une sortie d'Afrique de forme porteuse de l'acheléen et qui sont les ancêtres des hommes de Néandertal.
Ah. Voilà.
Donc... Alors l'autre hypothèse, c'est que l'acheléen européen a été inventé indépendamment de l'acheléen africain.
Voilà, donc autour de cette publication, hein, sur donc ce néandertalien primitif, on va dire les choses comme ça,
mystérieux,
et portugais, daté de 400 000 ans, et publié dans les PNAS cette semaine. Merci Jean-Jacques Hublin pour votre éclairage, depuis Leipzig en Allemagne, et puis Agnès, on se retrouve lundi.
À lundi.
Bon week-end. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la Terre qui recyclerait sa croûte terrestre, c'est en tous les cas ce que suggère une étude canadienne dans la baie d'Hudson. Les chercheurs ont remarqué que la croûte terrestre contenait un élément chimique issu de la désintégration du samarium-146. Or, cet élément radioactif n'existe plus sur Terre depuis 4 milliards d'années. Et la croûte de la baie d'Hudson a été formée bien après, il y a 2,7 milliards d'années. L'observation laisse donc penser que la croûte ancestrale a été refondue et réutilisée pour former une nouvelle croûte. Se gratter est contagieux. C'est en observant des souris qu'une équipe de chercheurs américains en est arrivée à cette conclusion. L'origine de ce comportement, c'est le noyau suprachiasmatique situé dans notre cerveau. Les scientifiques ont remarqué que lorsque les rongeurs voient un congénère se gratter, l'activité de ce noyau s'emballe. Il renvoie alors une masse d'informations en direction de l'épiderme et celui qui observe ressent alors des démangeaisons. Et puis les ours seraient des serial killers très productifs. En tous les cas, ils tuent beaucoup plus qu'on ne le pensait. C'est ce qu'a observé un chercheur en Alaska. Il a placé des caméras autour du cou d'une dizaine d'ursidés, leurs principales victimes de plus jeunes caribous et des élans qui constituent plus de la moitié de leur régime alimentaire. Sur une période de 45 jours, chaque ours a fait en moyenne 34 victimes. Un vieux mâle a même tué et mangé une femelle ours plus jeune. Pourtant, la chasse et la nutrition n'occupent que 7% du temps libre des ours. 60% du temps restant, ils se reposent.